Bienvenue à French Connection, épisode 104. Vous avez quand même dépassé depuis plusieurs épisodes le 100. Cette semaine, je suis avec Steve.
Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde.
Nous allons commencer avec les Shameless Plugs. Au mois d'avril, nous avons le OSC Québec, que le 22 avril a le CTF, une tradition au CTF qui vont présenter. Allez sur leur site, c'est très intéressant, les show notes, c'est clairement indiqué. Le 25 avril, Québec Sec va vous présenter un sujet en lequel on ne connaît pas encore. Et le 21 mai, Isaka Québec va présenter la gestion de la performance TI, ce qui est quand même particulièrement intéressant et incidemment un peu relié avec ce qu'on fait en sécurité. Commençons avec les nouvelles. L'Internet va avoir un méga problème, entre autres avec le fait que le BGP a, de toute apparence, atteint ses capacités.
Et oui, ça, c'est une nouvelle qui, encore là, ne fera pas les grandes manchettes en dehors de notre podcast. Mais bien, lorsque ça va planter, là, c'est certain que les gens vont se rendre compte que, oups, on est capable de rejoindre un tel site ou un autre. Le protocole BGP, pour ceux et celles qui ne se doutent pas, c'est quoi? C'est le protocole qui lie toutes les compagnies qui ont une présence native sur Internet. Et ce protocole-là, présentement, se veut d'être d'avoir une quantité quand même assez phénoménale et impressionnante de routes dans la table de routage des routeurs de l'Internet au complet, qui frôlent vraiment là, en moyenne là, le 774 000 routes. Ce qui implique de dire que ça prend des méchantes boîtes de routeurs ça, pour gérer ça. Or, quand on dit que les Internets sont bâtis depuis un certain temps, bien, ces routeurs-là, où ils sont, c'est pas des petits routeurs, c'est quand même des bétails, comme je disais. Et il arrive que certains ont vécu déjà une limite à 512 000 entrées et maintenant la nouvelle limite de 768K, autrement dit 768 000 entrées de la table de routage, risque d'être atteinte dans les prochaines semaines, et pas l'année, semaines, ce qui laisse croire qu'il va y avoir des dérangements importants sur Internet. Et dans un avenir très rapproché, il y a certains autres modèles qui vont être limités avec 1024 entrées. Ceci étant dit, ça veut dire quoi tout ça concrètement? Ça veut dire que l'Internet est malade et les fournisseurs d'accès, peu importe ceux qui ont des points de présence et qui ont des routeurs qui ne suffisent pas à la tâche, ben ils vont peut-être manquer d'espace pour avoir justement les dernières entrées dans la table de routage pour être capable d'acheminer l'information du point A au point B. Et après coup, on risque peut-être d'avoir des ralentissements. Évidemment, c'est pas parce que c'est annoncé par nous à French Connection que ça va arriver, mais c'est juste que il y a des compagnies, par contre, qui vont encore une fois réagir au lieu d'anticiper. Puis même, je ne serai pas surpris, Nicolas, il y a des compagnies qui ne savent même pas que les routeurs ne sont pas capables de soutenir cette limite-là de 760 000 routes BGP. Donc, ceci dit, attendez-vous à des dérangements prochainement sur les internets.
Mais tout ça est fascinant. Puis un peu, jusqu'à un certain point, ça me rappelle ce que Bigger disait il y a fort longtemps, que 640K de mémoire pour un ordinateur était suffisant. On se retrouve dans une situation où les grands penseurs de les Internet ont pensé que le nombre de routes, parce que BGP, ça réfère essentiellement à ça, serait suffisant, ce qui fait que les équipements vont arriver à capacité, et s'ils vont arriver à capacité, ça va exploser. Tu mentionnais très clairement que les grands fournisseurs sont minimalement au courant. Les plus petits ne se l'ont peut-être pas, fait qu'on risque d'avoir des éléments de petite tempête d'accès Internet qui risque d'arriver.
Oui, définitivement. Puis, c'est, encore une fois, c'est pas parce que c'est la première fois. Je veux dire, il y a déjà une crise qui appelle ça, eux autres, le 512K day. Et maintenant, cette crise-là va être la 768K day, donc la journée 768K. C'est comme l'an 2000, je veux dire, on a eu un événement récent où on arrive à des atteintes, là, ça c'est avec le protocole GPS, là, il y avait un flip qui se faisait donc un peu plus tôt dans le mois d'avril et il a reseté vraiment là, son clock pour être capable d'interpréter l'horloge provenant du signal GPS. Et certains vieux GPS n'affichaient pas évidemment les bonnes données. Donc, c'est des éléments comme ça que, oups, on arrive à des fins de vie utiles, mais que les appareils poursuivent le travail. Et comme on dit, des routeurs chez les fournisseurs d'accès Internet, ou en tout cas qui n'ont pas une présence sur Internet, quand même qui arrive, on va tomber à la 770 000e route qui va être dans le routeur. Le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il y a des routes qui vont y manquer, c'est clair. Fait que c'est de cette façon-là qu'on voit que ça va être à ce moment-là problématique. Et il y en a, dépendamment des fabricants, que le routeur peut tout simplement arrêter de fonctionner. Là. Je lance ça complètement sur le, comme ça, Nicolas, mais je serais pas surpris. Dans le fonctionnement, ça pourrait à ce moment-là déranger certaines pièces pour opérer et non pas juste ne pas enregistrer des routes simplement. Mais encore une fois, il n'y a pas de moyen de savoir combien qu'il y en a qui ne sont. Même sur Showdown, on ne peut pas trouver les routeurs qui seraient vulnérables face à cette limitation-là.
Ben, cette limitation-là est très obscure. Et comme tu dis, on ne sait pas ce qui va se passer parce que je pense que personne qui a testé le fait de dépasser ces limites-là. Ça peut être très intéressant parce que des routes vont disparaître. Mais quelles routes vont disparaître de ça? Fait que des segments complets d'Internet qui vont devenir inaccessibles sur la base que ces segments-là vont disparaître. Quel équipement vont le faire? C'est vraiment très fascinant. Et on se trouve encore dans des circonstances où on a mal jugé la portée des décisions qui ont été prises avant. Fait que c'est très fascinant parce que ça fait... On répète l'histoire. Je répète encore... Bill Gates a dit que 640K de mémoire vive pour un ordinateur était suffisant puis qu'il ne voyait pas pourquoi. Et maintenant, on vit avec des ordinateurs, puis j'en ai un qui est 32 gigs de mémoire vive. C'est plus que 32 fois ce que Bill Gates avait pu même imaginer au moment où il parlait du DOS depuis les années 80.
Alors, c'est phénoménal. Puis, je veux dire, on l'a vu. Écoute, la journée 512 000 de 512 cas, c'est arrivé en 2014. Donc, il y a 5 ans. L'Internet continue de marcher. Je veux dire, vous et moi, on continue à communiquer. C'est pas un problème. Je veux dire, il y a des amendements qui ont été faits, des changements qui ont été apportés. C'est clair. Il y a eu des soubresauts ici et là, mais ça n'a pas été catastrophique. Or, est-ce que c'est maintenant, ça sera maintenant le même scénario? Il y aura quelques petits soubresauts à gauche et à droite? Oui, attendez-vous à ce qu'il y en ait. Mais ultimement, c'est pas quelque chose qui devrait être normal, me semble. On devrait être passé ça. Mais encore une fois, comme beaucoup de fabricants de compagnies, ils vont aller toujours au minimum de ce qui doit être fait et ils vont corriger au besoin et non pas par anticipation, malheureusement.
C'est ultra fascinant parce qu'on répète l'histoire à chaque fois.
Fait que, oui, exact.
On est toujours étonné. C'est ça, on atteint la capacité. Mais oui, mais... L'an 2000, 140K, on en a 1 million de cas qui nous présentent que le fait que les technologies durent beaucoup plus longtemps que ce que le créateur a prévu. Les gens ne migrent pas aussi vite que ce qu'ils voudraient. Puis on peut prendre un autre exemple. À l'heure actuelle, Microsoft nous pousse leur desktop as a service, le fait qu'ils poussent. Le fait que Windows doit migrer à, je pense, c'est aux 18 mois qu'ils veulent faire migrer Windows. Cela étant dit, macOS migre aux 12 mois déjà depuis plusieurs années. Fait qu'à chaque année, ça se fait avec une capacité de tolérance de, je pense, c'est 6 ans en arrière qui sont capables avec les macOS. C'est pas nouveau, mais cet univers-là, on le sait, là. Puis les gens TI sont comme juste pas capables de voir le fait que on regarde pas, puis je te vois rire, puis oui.
Oui. Excusez, m'a dire un terme anglais, shit happens.
c'est comme si on n'était pas capable de le voir arriver, c'est comme fascinant. En 2019, on a vécu tellement de cas de limitation, puis on répète encore les mêmes erreurs qu'on fait. C'est Einstein qui disait que répéter les mêmes erreurs deux fois n'était pas un signe nécessairement d'une grande intelligence.
Il me semble que oui. Ça démontre certainement une absence de compréhension, d'adaptation.
Mettons. Puis, by the way, pour ceux qui ne savent pas, Einstein, c'est le début du 20e siècle. Ça fait longtemps, là. Ça fait plus que 100 ans qu'il a dit ça.
Pour ceux qui il n'y a pas de technologie pas. Comme aujourd'hui, là.
Non, il n'y avait pas d'ordinateur, puis il y avait à peine la télé et les radios à ce moment-là. Puis la télé, noir et blanc, s'il l'avait. Je suis même pas sûr. Parce que je ne suis pas assez ferré dans ces sphères-là. Cela étant, passons à la nouvelle suivante. Wi-Fi, problème qui est un peu louche, finalement.
Oui, pas loin de 166 fabricants sont impactés par la découverte d'une vulnérabilité de par les chipsets de Broadcom qui sont distribués dans beaucoup, beaucoup de produits qui communiquent sans fil. Et encore une fois, ça démontre quoi? Ça démontre que parce que très peu de joueurs qui travaillent avec les différents chipsets, les différents fabricants, c'est-à-dire on a Arthur Rose, Broadcom, Intel, juste Qualcomm, juste pour nommer ces quatre-là. Maintenant, il arrive un élément de sécurité qui pourrait à ce moment-là exposer la confidentialité des conversations, mais ça fait en sorte que, oups, ça fait un peu, là. Faudrait peut-être patcher ça. Mais quand on dit patcher ça, ça veut dire Broadcom va émettre un correctif. Et bien souvent, si on prend exemple un produit comme Apple, ça va arriver chez Apple. Apple va le mettre dans un patch et la patch, après ça, va être redistribuée, comme ça a été le cas récemment. Et c'est souvent qu'est-ce qui blesse le plus, parce qu'on ne peut pas, en termes d'utilisateur, aller directement chez la compagnie, l'intégrer, aller chercher la patch et l'intégrer dans notre environnement. Donc ça peut faire mal pour, à ce moment-là, les distributions. Ce qui veut dire aussi, on va en parler peut-être juste un peu plus tard si on a le temps, mais si la distribution est mal faite, est mal supportée, ça peut impliquer aussi une attaque contre la chaîne de distribution, une supply chain attack, qui veut à ce moment-là de vraiment corrompre dans des points de distribution spécifiques la distribution de correctifs. À date, on l'a vu récemment, il y a eu des cas, exemple chez Lenovo, juste pour nommer celui-là, que des Magnesus, qui est le plus récent, qui distribue à ce moment-là des correctifs, mais ils ne sont pas correctement bien identifiés ou bien signés, et ça arrive à contaminer l'autre côté, donc chez nous, comme utilisateurs. C'est juste fatigant, mais encore là, il y a un gros manque, je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais il y a un gros manque au côté vérification lorsque c'est redistribué. Et moi, je crois que comme usager, on a très peu de moyens de connaître, à part évidemment de regarder la signature en SHA 384 ou 512, parce que SHA 1, c'est plus bon, ni MD5, de regarder si la signature numérique du code qui passe, elle est authentique ou pas. C'est à peu près la seule manière qui nous reste de garantir ça. Sinon, je ne sais pas ce que tu en penses, quel moyen qu'on aurait, là.
C'est très difficile. Le problème, c'est que la chaîne de conception des systèmes est énormément plus compliquée que ça l'était. Broadcom, là, dans ce cas-ci, c'est Broadcom. Broadcom est dans plusieurs systèmes, pas uniformes. Est-ce que ces systèmes-là sont patchés? C'est très difficile à savoir. Par expérience, je sais que Apple a tendance à patcher beaucoup plus vite qu'Android, par exemple.
Ouais.
Ce qui fait que, puis même le problème d'Android, c'est que le fait que c'est dépendant des fournisseurs cellulaires qui sont particulièrement lents à transmettre l'information.
Oui, puis dans ce cas-ci, veut dire, c'est encore une fois, ça, on va dire c'est simple, c'est un buffer overflow dans deux parties différentes là, de la façon qu'ils opèrent. Mais il reste fondamentalement que aujourd'hui, ces chipsets-là, on les retrouve là, encore là dans des téléviseurs, dans des cellulaires, dans tout ce qui communique sans fil, là, juste pour nommer quelques exemples comme ça. Donc, ça veut-tu dire que le fabricant de télévision va aller déployer une mise à jour? Ça, je sais que non. Mais il reste pareil, il faut qu'il y ait une façon de facile de le faire, mais c'est ça qui n'est pas facile, justement, d'aller chercher. Puis d'après ça, de l'appliquer, ce correctif-là. Donc, soyez avisés. Il y a des mises à jour à faire. Comment savoir aussi que vous avez un chipset Broadcom? Ça, c'est l'autre portion, je crois, qui est difficile pour monsieur et madame tout le monde de comprendre. OK, ma TV, elle a sur un Broadcom. Mon laptop, il a sur un Broadcom. Donc, il y a des aspects de connaissances techniques à aller chercher pour déterminer si c'est le cas dans votre appareil que vous avez ce chipset-là. Mais pour faire l'exemple, tantôt ce que je disais pour Apple, ils ont corrigé cette vulnérabilité-là dans le déploiement du 15 avril sous le CVE 2019-8564 est connu, cette vulnérabilité-là. Donc, soyez avisés, ceux qui ont des appareils Apple, macOS comme iOS, ça a été corrigé, ces affaires-là.
Mais c'est ça. D'où le problème, c'est qu'on maintenant on est dépendant du fournisseur intermédiaire. Je parlais d'Apple parce qu'Apple utilise jusqu'à certains égards beaucoup de Broadcom dans ses équipements. Donc, on dépend d'Apple pour nous aider comme consommateurs à corriger. Bien heureux ceux qui utilisent Apple parce qu'ils sont quand même assez à jour dans leur stratégie. Mais quand tu parlais des télévisions, moi, mon fournisseur de télé, je suis pas convaincu qu'il est aussi, mettons, dédié à la surveillance, ce genre de choses-là. Fait que je suis convaincu que ma télé, c'est là du Broadcom. Et toute la question est de savoir, est-ce que c'est juste du Broadcom dans ma télé? Puis je suis dans le domaine, là. J'ai aucune idée de ce qu'il y en est. Imaginez le monsieur et madame tout le monde, eux autres n'auront aucune idée de ce qui se passe. Fait qu'on met sur le fardeau du fournisseur, le final, toute la correction. C'est pas tous.
Non.
Je sais qu'Apple est quand même pas si pire dans ce monde-là. Microsoft s'est beaucoup amélioré aussi d'ailleurs, parce qu'il quand même contrôle une bonne dose du marché consommateur. Est-ce que les autres utilisateurs, les autres participants au marché utilisateur sont aussi? Je suis convaincu qu'il y a plein d'équipements IoT, thermostat intelligent, lumière intelligente ou whatever ce qu'on a.
Téléphone Samsung, téléphone Huawei, oui.
Tout ce qu'on considère intelligent. C'est une mauvaise traduction parce que ça, je trouve qu'en français, là, on a été médiocre là-dessus parce que smart en anglais, ça ne veut pas dire intelligent en français. Il y a comme un fuck dans la traduction. Ça ne veut pas dire la même chose. Smart TV et télévision intelligente, pour moi, c'est pas la même chose. Je pense que tu es pas mal d'accord avec ce point.
T'appellerais-tu ça une télévision futée à ce moment-là?
C'est très difficile de trouver le smart, mais il faudrait trouver un terme francophone minimalement qui est plus représentatif que intelligent parce que moi, j'ai pas un téléphone intelligent, j'ai pas une télévision intelligente. Smart, c'est pas intelligent. Smart, c'est juste comme. Je sais pas. En plus de langue française, faites votre job et trouvez quelque chose de mieux que intelligent parce que ça marche pas comme concept. Ça met de mauvaises idées dans la tête des gens.
Tout à fait.
Cela étant, tout ce qui est smart dans notre vie, s'il y a du Broadcom dedans, on est dans la marde, puis on est à la remorque du fournisseur, pas de Broadcom, mais du fournisseur final pour être patché. Est-ce que celui-ci a vraiment l'intérêt de nous patcher? C'est pas toujours le cas. C'est quand même un problème.
Exactement. Puis il y a même danger de déni de service. Mais encore là, Nicolas, quand je me documentais là, sur cette nouvelle-là, c'est pas si évident que ça de créer. Demain matin, là, on se dit on va en profiter de la vulnérabilité, tu sais, on va écœurer le monde. C'est pas évident. Mais comme n'importe quelle faille et vulnérabilité qui sont découvertes, il s'agit qu'il y en ait un, deux, trois là, qui dit nous autres, on va créer le code nécessaire pour que les gens puissent tester leurs équipements, en guillemets, n'est-ce pas? À ce moment-là, c'est là peut-être que ça va devenir un peu plus mainstream, puis on va avoir des applications qui vont planter, des applications sans fil planter davantage. Mais ceci dit, je n'entrevois pas présentement là, la plus-value de quelqu'un va se prémunir de cette vulnérabilité-là, puis il va s'en servir dans une tour à bureau pour être capable d'aller faire planter tout ce qui est Wi-Fi alentour. Là. À moins que ce soit des jokes du 1er avril, là, je vois pas que. Tu sais, comme il y en a des vulnérabilités qui sont là pour être capable de voler de l'information, du matériel financier, puis que les gens s'en servent donc pour faire une pièce, OK, c'est une conséquence directe. Mais dans ce cas-ci, OK, il faut qu'elle soit juste pour éviter des troubles potentiels, il faudrait peut-être la patcher. Ça revient à ça pas mal.
Mais c'est une vulnérabilité, elle, de toute apparence, elle est petite. Et le problème, c'est qu'une simple vulnérabilité, aussi petite qu'elle soit, permet d'entrer dans les systèmes. Puis c'est ça que les gens ont peut-être de misère à mesurer, et à quel point les impacts sont néfastes. Puis tant qu'à parler de Wi-Fi, bien, le nouveau standard WPA3 est aussi un peu en problème.
Yes! Enfin, on va migrer, on va amener une meilleure sécurité en principe dans l'environnement du sans-fil. Juste pour se rappeler un petit peu d'historique, je veux dire, au début des fin des années 90, quand que ça sort, la technologie du sans-fil est sortie, je veux dire, c'est Web qui dominait la sécurité dans tout et partout. Et Web rapidement a été vu comme étant vulnérable. On sait avec son vecteur d'initialisation qui était répétitif. Puis, Après coup, c'est en 2004, ça a donné lieu à la création de IEEE 802.11i pour la norme Robust Secure Network, qui permet à ce moment-là d'utiliser WPA ou WPA2. Mais WPA, juste pour faire encore là une petite brin d'histoire, ça utilise le même chiffrement RC4 que WEP, et ça l'a simplement complémenté avec un Temporal Key Integrity Protocol, donc un TKIP, pour être capable de complexifier le chiffrement RC4 qui était faible et surtout enlever le vecteur d'initialisation fautif. Mais ça, ça a été temporaire, qui est appelé un pre-RSN measure, et jusqu'à ce qu'une génération de hardware, pas capable de gérer AES en termes de chiffrement, puisse continuer de sécuriser, entre guillemets, la transmission. Et après coup, lorsque le hardware a rendu l'arme, le matériel, ben à ce moment-là, c'était capable d'utiliser la nouvelle norme qui est WPA2. Aujourd'hui, là, encore là, Nicolas, moi, ça me dépasse. Comment est-ce qu'un fabricant arrive à mettre sur le marché un appareil, il se dit encore là, en avant-plan de la sécurité, mais il offre WPA puis WEP encore dans ses choix de sécurité là, de l'appareil. Ça me dépasse un peu. Mais ceci dit...
Les gens s'en foutent.
Ben, ils s'en foutent certains, mais ils sont mal protégés. C'est un peu comme... On se parlait lors de l'entrevue de la présentation que j'ai faite. Je veux dire, montrer une page web avec un petit cadenas, est-ce que c'est gage qu'on a l'assurance intrinsèque que le site est totalement sécuritaire dans son échange? Je l'ai démontré lors de la conférence. La preuve, c'est non, parce que vous avez des sites comme Revenu Québec qui utilisent TLS 1.0 et que un TLS 1.0 pour établir la communication sécurisée. Ça affiche le petit cadenas, check. Il n'y a aucune sécurité. Ça utilise RC4 pour encrypter et c'est faillible pour être capable de décoder ça en temps réel.
Mais les gens, c'est ça, ça fait des années que je le dis, c'est que le maudit cadenas qu'on a dans notre navigateur Internet n'est pas garant de la sécurité de la communication dans laquelle on est. Mais en même temps, comment expliquer au commun des mortels et les gens qui ne sont pas connaissants comme on peut l'être, puis encore là, même moi, j'ai des limites dans la connaissance que j'ai, qu'un cadenas dans le navigateur exige une vérification supplémentaire, que tu n'utilises pas des fucking algo faibles, puis il y en a, puis dans ta présentation d'ailleurs, tu le disais que certains sites gouvernementaux, malheureusement, utilisent encore des stratégies de chiffrement pas à la hauteur. Puis là, on parle des gens, monsieur, madame, tout le monde, je parle, mes parents n'ont aucune capacité à comprendre ça. Là.
Tout à fait. Mais c'est la plaie, je veux dire, j'appelle ça la plaie du 21e siècle où les gens veulent tous se prémunir des derniers moyens technologiques pour en profiter. Et malheureusement, c'est ne les pas expliquer correctement comment s'en servir et comment ça fonctionne. Mais si je reviens avec le sujet qu'on disait tout à l'heure, WPA3, pourquoi qui est tout d'un coup brisé? Bien, il vient de rentrer, il vient d'entrer en fonction. Il n'est pas encore adopté largement par l'industrie. C'est toujours WPA2 qui persiste et signe pour l'instant. Mais par les tests récemment effectués sous le terme Dragonfly, la vulnérabilité Dragonfly, pardon, c'est une façon de faire donc dans le protocole d'échange lorsque le handshake est effectué. Un peu comme on a vu dans l'année dernière lorsqu'il y avait eu le crack attack. C'est similaire dans cette façon de faire-là. Et similaire dans le sens qu'il y a moyen, dans une des façons, de faire cet échange-là entre le passage de clés dans le matériel cryptographique qui est initié entre le client et le point d'accès, la communication est établie. C'est de cette façon-là qu'encore une fois, il y a une possibilité de lire, plutôt de compromettre la clé qui est échangée entre l'access point et l'utilisateur, l'appareil, je voudrais dire. Donc, c'est les mêmes chercheurs que Van Hoff, autrement dit, qui a découvert cette vulnérabilité-là suite à celui qui avait découvert Crack. Mais ça va sans dire que, encore une fois, pas parce que le nouveau protocole est en place que tout est réglé. Au contraire, on voit ici que c'est encore une opportunité de développer avant de publiciser, de le pousser sur le marché. J'espère juste que ça va se régler rapidement, car on a des belles technologies du sans-fil qui s'en viennent. Et ce serait intéressant de pousser une nouvelle technologie avec une nouvelle sécurité pour être à mesure à ce moment-là de ne pas se casser la tête et que tout le monde en profite.
Tout à fait. Puis, étant un très grand utilisateur de technologie, j'aime ça quand la facilité que ça amène dans ma vie. Mais cela étant, comme procédant en sécurité, je suis un peu inquiet justement que ces compagnies-là se sacrent un peu de toute la protection de l'information dans laquelle je communique. Là, c'est très proche, on parle du Wi-Fi dans ce cas-ci. C'est pas parce que mon Wi-Fi est localisé chez nous que on doit moins sécuriser ce que c'est. Puis j'ai la chance, là, avec des gros guillemets, d'avoir des équipements sans fil, que mes routeurs sans fil sont W3. Le problème que j'ai, c'est que j'ai aucun équipement qui communique avec ces équipements, avec mes points d'accès, qui sont W3. Fait que je suis comme pogné parce que j'ai en même temps des vieux équipements d'une ancienne génération qui sont éternellement vulnérables. C'est pas parce que c'est sûr que les Chinois ne viendront pas m'attaquer parce qu'ils sont physiquement pas proches de chez nous. Mais mon voisin, lui, il capte mon signal Wi-Fi. Le gars qui stationne louche en avant de chez nous, lui aussi peut capter mon signal Wi-Fi. Là, est-ce que ce que je vais mettre, c'est des protections, la peinture anti-Wi-Fi sur mes murs?
Ben pourquoi pas? Ça nous donne l'occasion de pouvoir redécorer avec un petit brin techno moderne. Moi, je te le recommande.
Oui, mais là, on parle de... Et comme toi et moi, on est très techno, on est capable de comprendre ça. Est-ce que madame et monsieur tout le monde sont capables de faire ça? Puis ça, je vais le répéter, en France, ils appellent ça madame Michu. Madame Michu est-elle capable de comprendre? J'aime ça qu'on ait donné un nom à cette personne-là,
okay,
qui est le citoyen lambda, madame Michu. Est-ce que madame Michu est capable de comprendre que son signal Wi-Fi va jusque dans la rue en face de chez elle? Est-ce qu'elle est capable de comprendre que c'est comme crier dans un bureau? Puis j'ai eu cette conversation-là dernièrement avec son bureau sur comment fonctionne le protocole ARP. Et pourquoi celui-ci est problématique?
Par mouche.
C'est ça, je peux l'expliquer à des gens qui ne comprennent pas la technique. J'ai essentiellement le protocole ARP, c'est que tu arrives dans un espace de travail ouvert, tu cries très fort, je cherche telle personne, et tu attends que cette dite personne-là se lève pour identifier. C'est ça que le protocole ARP. Et l'image a été tellement forte qu'on a appliqué des mesures correctives en conséquence. Mais quand il faut expliquer aux gens ce que c'est, le Wi-Fi, c'est ça. C'est comme t'asseoir sur ton soin de maison et dire « Hey, j'existe. Je te diffuse tout mon contenu. Veux-tu l'écouter? » Puis t'es proche, fais-tu l'entends? Merveilleux pour toi. C'est ça le Wi-Fi.
Mais c'est très bien apporté. Puis... Écoute, ARP pourtant, là, c'est ça date de longtemps et on en parle encore, c'est omniprésent, et ça va l'être toujours sous IPv4, mais c'est fascinant comment encore aujourd'hui, on est obligé de réexpliquer, puis je crois dans l'intervention que tu amenais, c'était il a fallu que tu expliques pourquoi tu veux segmenter probablement. Et une segmentation, c'est pour réduire ce qu'on appelle le broadcast domain, et c'est ce que Nicolas vient d'expliquer, là, de la façon que ça va broadcaster, diffuser à haute voix, là, vraiment, et ça me fait penser, justement, j'ai fait une installation de système de vidéoconférence dans une compagnie à Montréal, encore là, une compagnie qui produit, en tout cas, à ce moment-là, produisait, je suis sûr qu'elle produit encore des catalogues électroniques de matériel pour vendre, tu sais, en ligne, une boîte de développement, autrement dit, 400 personnes, 600 serveurs, 100 personnes, 400 serveurs de développement sur un slash size. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, lorsqu'on dit en TCP/IP, on fait un masque de sous-réseau et qu'il a 16 bits de large. Autrement dit, c'est valide pour 65 534 adresses sous le même subnet. Et quand j'ai installé, à un moment donné, le plan d'adresse IP, et j'avais omis, je suis quand même capable de le dire, j'ai omis de faire mes calculs adéquatement. Et je regardais, moi, juste l'infrastructure, je voyais, il y avait 5 stacks de 3750 en flamme en eux. J'ai dit, hey, on n'aura pas de trouble ici, ça va bien aller. Mais, cette façon de faire-là, et ARP étant très bavard, avec même les ingénieurs de Cisco, ils ont été surpris que, ça avait quelques plaintes que l'organisation m'a fait, suivant l'installation, ça plantait après une heure. Le buffer de la carte, le buffer IP de la carte du système de vidéoconférence plantait systématiquement à chaque fois qu'il s'en servait après une heure. Et c'est après avoir fait des tests dans l'isolation, etc., que là, on s'est rendu compte, attends un peu, là. Là, j'ai questionné, j'ai regardé, j'ai sniffé le subnet, j'ai dit « Holy shit, qu'est-ce qu'il y a? » Et effectivement, lorsqu'on a isolé ça dans un subnet juste à eux, l'appareil fonctionnait très bien. Et après coup, j'ai questionné le directeur de la place et dit « Avez-vous des troubles de performance chez vous? Ça doit accrocher, des fois, ça doit pas aller vite. Hein? » « Ah, du oui, mais on s'accommode. » Moi, j'ai tout simplement émis des recommandations et j'ai quitté le lieu. Mais il y a beaucoup de compagnies...
Sérieux, c'est des 3750. C'est des vraiment très beaux équipements, là.
Oui, j'ai oui, très performant.
J'ai eu touché un peu, puis j'ai de mes amis qui sont beaucoup plus spécialisés en télécom, puis c'est quand même de très beaux équipements. Et ils s'accommodent d'un ralentissement. Oh my!
Ben, c'est parce qu'ils connaissent pas mieux. Puis je pourrais en faire des histoires comme ça, là, j'en ai vu, là, je veux dire, des chaînes de restaurants, d'autres grandes compagnies comme ça qui ont bâti le réseau et opère le OPR, j'espère, parce qu'il était encore en slash 16. Des gros subnets inutilement laissés ouverts, non subdivisés, parce que probablement les gens, les administrateurs ne comprenaient pas comment ça fonctionne. Ça, c'est ma conclusion. Mais,
on revient à l'image que je disais. Un slash 16, c'est-à-dire que tu as 65 000 personnes dans un lieu commun qui parlent en même temps.
Oui.
C'est juste comme. Fou.
Ben, c'est pas dur. Va, Nicolas, on fait une petite parenthèse, mais va dans les espaces publics, les hôtels, tout ce qui est hospitalier qui offre du Wi-Fi gratuit. Et la majorité du temps, c'est bâti sur un slash. Et j'ai même vu une fois 8. Donc, ils ont mis 10.00/8. Oui, mais ils sont pas consentants. Ils ont dit, mais ça, on n'aura jamais plus de problème. Sinon, ça tourne alentour encore là de slash 19, 20, 21. Mais 16, je l'ai vu souvent. Et c'est juste mis en place pour satisfaire peu importe la quantité de clients qu'ils auront à desservir. Ils ne veulent pas imaginer de sous-diviser par étage ou quoi que ce soit. Non, non. Encore là, c'est qui a pas dit ça? C'est des gens probablement qu'ils ne veulent juste pas entendre des plaintes et ils veulent juste mettre ça en place et dire hey, ça marche. Mais ça marche pas bien.
Tu tues ta performance, ça n'a juste aucun sens. J'ai mes amis en télécom, ils doivent juste comme... Quand ils m'entendent cet épisode, ils vont juste comme pleurer leur âme. Ça n'a aucun sens que ce que tu viens de dire. Oh, ça fait mal.
Ben oui, mais c'est une réalité. C'est plate, mais c'est une réalité. Puis les gens, pas les gens, mais les compagnies ne font pas de contre-vérification si le travail est bien fait, il est bien installé, malheureusement. C'est fréquent.
Malheureusement, c'est un problème d'éducation. Puis avant de... Je pense qu'on est mieux de changer parce que je vais commencer à être vraiment brutal à mes commentaires. On va aller dans un sujet peut-être qui n'est pas nécessairement plus léger, mais un sujet qui a une très grande importance au niveau de gérer la grossesse. Et va en avoir parmi vous, si ce n'est pas vous, c'est votre conjointe qui est dans une situation qui s'approche de ça. Donc, il y a quand même une chose à se préoccuper.
Et oui, c'est dans la modernité des choses que les gens de plus en plus se prémunissent, ou plutôt ils profitent, Nicolas, de la technologie, puis c'est correct. Profiter de la technologie et de cette façon-là, s'assurer qu'on puisse suivre les détails médicaux de qu'est-ce qui se passe dans nos vies. On l'a vu dans les dernières années, les gens ont embarqué beaucoup dans la mode de faire le suivi d'entraînement avec des applications, des Fitbit attachés à tout ça. Et ça donne des biométries quand même assez précises sur la performance. Puis en même temps, ça aide souvent les professionnels de la santé à suivre, si nécessaire, les tendances, donc pour le rythme cardiaque ou la glucosémie, merci. Face à ça. Mais par contre, ce qui a récemment ressorti, c'est de suivre en temps réel la grossesse de quelqu'un, c'est-à-dire, pour vous, mesdames, si vous faites, il y en a que, en tout cas, je sais très bien qui adore transmettre les états d'âme sur les médias sociaux, et là, pourquoi pas garder un petit carnet et sur l'évolution de comment se développe votre grossesse, et en même temps, de partager avec les assureurs, et mais pourquoi pas le patron au travail. Hein? Et comme ça, tout le monde est au courant comment vous allez bien, comment votre journée se déroule, les mood swings, comme on appelle en français, là, je veux dire, les changements d'humeur. Ça a toute une signification, puis à ce moment-là, ça a sa place, me semble, right?
Dans la perspective, comment là, c'est un préjugé crasse que les femmes ont tendance à vouloir partager démesurément, oui. Et les médias sociaux sont un beau outlet pour cette situation-là. Oui. Effectivement, c'est comme une espèce de facilité de diffuser notre état d'âme au maximum de personnes qui, normalement, on devrait appeler individuellement pour dire comment on fait.
Tout à fait. Et ça, évidemment, encore là, avec l'accès aux moyens de diffusion, donc le téléphone plus ou moins intelligent, et la tablette et le laptop, je veux dire, c'est facile à ce moment-là de répandre cette nouvelle. Or, qu'est-ce que vous en diriez, par contre, que ces compagnies qui suivent cette grossesse-là avec vous, sans votre consentement, prennent ces données-là et puissent, à ce moment-là, faire une pièce sur votre dos? C'est ça qui s'est passé. En Angleterre, il y a une compagnie qui s'est faite ramasser solidement, et ça s'appelle le Pregnancy Club Bounty. Et eux, ils se sont fait imposer une amende de pas moins de 400 000 livres sterling, ce qui équivaut à peu près à 850 000 piastres canadiens, pour avoir échangé les données sans le consentement de 14 millions de mamans. Ça veut dire du monde dans ta barouette, pareil. Et à ce moment-là, ça donne quoi aussi? Ça donne l'idée que, oh, ça teint un petit peu, là. Si ça se passe avec une compagnie comme ça, puis ça a donné de même, là, j'en ai parlé il y a deux semaines, puis là, ça a sorti cette semaine, cette nouvelle-là, ça veut dire qu'il y a-tu d'autres mondes, d'autres compagnies avec d'autres types d'applications qui font la même chose? Mais la réponse est oui, parce qu'il y a eu d'autres cas à travers le temps que ça a été démontré que c'est, encore là, il ne faut pas oublier une affaire, ces applications-là, quand elles sont gratuites, on en fait l'objet de paiement, autrement dit, par nos données, nos métadonnées.
Non free lunch. C'est non free lunch.
Non, règle. Non.
Si c'est gratuit, ces compagnies doivent vivre. Il y a toujours des employés, ils doivent vivre, ils doivent payer leurs employés. Minimalement, c'est juste sur la base, ils doivent payer leurs employés. Cet argent-là vient d'où?
Voilà. Et c'est la façon de faire, la façon moderne. Et oui, je le dis tout le temps, là, je dis, c'est plus l'or, c'est plus le pétrole, là, le cours, les échanges là, qui se font et qui valent cher aujourd'hui, c'est l'information personnelle. Donc, imaginez une compagnie d'assurance qui met la main sur ces paquets d'informations-là, mais surtout les marketing de produits, des produits pour bébés, produits d'enfants. Eux, ils salivent depuis que ça existe et peuvent à ce moment-là cibler, pour ne pas dire orienter vraiment le message et la publicité en conséquence qu'ils peuvent à ce moment-là vous envoyer. OK, la publicité, on s'entend, c'est pas ça qui est dramatique, mais si vous arrivez à ce moment-là, après coup, et une maman typique a eu de la difficulté avec sa grossesse, ça a occasionné des dérangements au travail dans le sens qu'il fallait lui demander plus de congés, ça a coûté plus cher d'hospitalisation, etc. Ça devient des paramètres avec lesquels les assureurs, les employeurs regardent la rentabilité de l'employé. Et donc, à ce moment-là, ça va modéliser, peut-être même changer la prime d'assurance parce qu'à ce moment-là, ah, vous êtes un plus grand risque, etc. Hey, c'est crasse, on le dit. Mais on le voit, avec les automobiles, ça se fait depuis... récemment, ici au Québec, on a eu des jardins qui ont mis des petits plugs sur l'ODB2 dans le véhicule automobile qui donne en quasi temps réel l'accélération, la décélération, je veux dire, le déplacement partout où la personne va. Et ils sont capables de moduler à ce moment-là une offre de service taillée selon vraiment comment est-ce que le conducteur se comporte dans la civilisation. Mais ça dénonce, ça donne, comment je dirais donc, ça dévoile beaucoup de la vie privée des gens. Et imaginez que si du jour au lendemain, si vous n'êtes même plus capable de protéger votre grossesse de tous et chacun, c'est fatigant là, comme papa. Là, j'aurais pas aimé ça que tout le monde sache là, comment ça se passe. Là.
Mais c'est ce que tu mentionnes est grave. Effectivement, puis ça fait un lien direct avec ta conférence que tu as faite au Sécur. On est dans un univers où nos informations, on les marchande sans même le savoir en plus. Puis il y a bien des gens qui marchandent nos informations sans le savoir. Puis l'exemple que j'aime bien nommer, puis que les gens, ça les déstabilise au possible, c'est Hermès.
Ah, Hermès, ben oui.
C'est d'accepter, quand on passe la carte, c'est d'accepter le fait que le marchand va transmettre l'ensemble de ce que tu as acheté un sac qui va faire whatever ce que ce qui ça lui tente avec cette information parce que tu viens de perdre le contrôle de cette information à ce moment-là. Fait que les gens sont pas comprennent pas que quand tu parles de contrôle de cette information, elle fait n'importe quoi.
Tout à fait.
Et quand tu parlais de grossesse, puis j'avais un cas très intéressant face à ça, je ne me rappelle plus quelle compagnie, j'imagine sur Amazon, ont envoyé à une jeune fille, probablement de mémoire autour de 16 ans, des affaires de préparation à l'arrivée d'un nouvel enfant dans sa vie, avant même qu'elle sache elle-même qu'elle était enceinte. Fait qu'ils ont détecté dans les différentes structures dans lesquelles elle a interagi qu'elle était enceinte parce qu'elle a fait des recherches, pas parce qu'elle savait elle-même, mais parce qu'il n'est à fait que, ils ont déduit que, et effectivement, le problème, c'est que cette jeune fille-là vivait dans une famille qui était très religieuse. Aux États-Unis, c'est plus problématique. Le fait de cet élément religieux-là, d'avoir un enfant en dehors du mariage, et ainsi de suite, c'est un peu comme le Québec des années 50-60, maintenant, en termes de perception sociale. Fait qu'elle, quand elle a reçu le kit de nouvel enfant, de genre tester les nouveaux produits pour les acheter plus tard, ça l'a comme créé un malaise dans sa famille parce qu'elle-même ne savait pas. Fait que ça, c'est déjà un problème. Là, ensuite, et où tu vas plus loin, est-ce que tout le suivi des différents gizmos qu'on a, tout ça, puis ces compagnies, ce qu'ils font avec cette information-là, puis je dis, une certaine époque, mais c'est le fun là, d'avoir les choses comparées avec les autrui, tout ça, c'est juste que le contrat d'utilisation permet à ces compagnies-là, et en Angleterre, malheureusement, sont soumis au RGPD, ou heureusement, si tu n'es pas un consommateur, si tu es de quel côté de la frontière tu te trouves. Ce qui fait que tu peux pas faire ce que tu veux avec les données de tes consommateurs. Puis, comme consommateur, je suis très content qu'ils puissent pas faire n'importe quoi avec mes informations. Puis, je suis content parce que, pas parce que d'un côté, ils vont utiliser, mais d'un côté, c'est parce qu'ils ont tendance à transformer le contrat. Et tu prends un contrat comme 23andMe,
oui,
c'est qu'ils gardaient pour eux autres. Ils ont été vendus. Du coup, pouf, comme ils ont été achetés, ben, le contrat ne tient plus. Fait qu'ils font ce qu'ils veulent avec l'information. Fait que comme une transformation de l'information du contrat entre ce que comme consommateur tu as pris initialement et ce qui arrive au bout du compte. Fait que ce qui fait que tes informations, au moment où tu as pris engagement, tu te sentais minimalement confortable à ce qui était fourni et n'est autre. Donc, c'est sale. Puis, dans le cas, c'est un cas d'acquisition. Puis, il est arrivé plein de cas où des compagnies, puis, cette compagnie-là est un bel exemple, il commence avec oh oui, on ne diffusera rien. Du coup, ouais, mais ça ne nous tente plus parce qu'on doit monétiser votre information pour faire du profit. Fait que, fuck you, comme consommateur, on s'en tac de vos informations. On doit faire de l'argent. Fait que, je m'en fous de ce que tu as dealé avec moi. Je renverse le contrat, puis c'est moi qui ai l'autorité.
Puis si vous n'êtes pas content, venez me chercher.
Ouais, c'est tout ça aussi le problème. Comment tu vas chercher une compagnie qui est dans un pays qui n'est pas le tien, en plus?
Oublie ça. Oublie ça. Juste une précision, c'est Target qui était le concerné dans cette histoire-là que tu rapportes. Et qui, imagine, c'est en 2012. 2012! Allez, on est en 2019. Imagine comment est-ce qu'en 7 ans, ça a pu évoluer la façon que toute l'information maintenant est capable d'être fluide et disponible. Parce qu'il y en a des grosses façons que ça a évolué, là, c'est la captation par les applications, mais surtout aussi par tout ce que la personne va avec son Wi-Fi, son appareil qui est connecté en Wi-Fi. Je veux dire, ça devient à ce moment-là encore plus facile pour les marchands de documenter l'information en temps réel. Alors que la personne s'en va un peu partout. Donc, si on fait abstraction, un parallèle avec l'histoire que tu apportes, Nick, en 2012, on met ça ici en 2019, la personne qui se promène avec son cellulaire qui s'en va dans la section des enfants, bébés, tous des trucs comme ça dans le magasin, vont faire en sorte que le marchand va être autant capable de deviner que la personne, oups, elle cherche probablement des choses par rapport à l'enfant. Mais ça, c'est crise parce que ça aurait pu être facilement interprété comme quoi que dans la famille, il y en a une personne qui a un enfant de bas âge et la personne peut chercher des cadeaux, etc. dans ce cas-là. Fait que, c'est, l'interprétation est à suivre là-dedans, mais c'est à faire attention. Et comme tu dis, là, ça a créé des malaises, ça a brassé dans la famille. Mais ça enlève le caractère privé d'une recherche que tu fais pour tes besoins, encore là, de curiosité. Ça devrait pas transpirer en dehors que juste le moment que tu fais ta recherche. Donc, il y a moyen d'utiliser des outils simples pour être capable de faire une recherche sans que ça s'en aille aux 80, ça s'épuise, comme on dit, et que les autres organisations le sachent que vous êtes en train de faire une recherche spécifiquement à un sujet délicat, comme tu as décrit.
Oui, puis c'est une belle occasion pour plugger ta conférence que tu as faite au Secure. Mais tout ça, ça va, on change d'univers, puis je vais finir parce que on va closer là-dessus. Oui. Il y a des livres que j'ai lus il n'y a pas si longtemps. C'est Sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Ce sont trois livres très intéressants d'un auteur qui nous, mettons, re-questionne sur la façon que l'humain et l'humanité est. Si vous n'avez pas lu, lisez-les. Vous allez constater à quel point on vit dans un monde de fiction. Et en tant que technologue, en tant que spécialiste en sécurité, cybersécurité, toutes ces fictions-là sont fort intéressantes et à quel point on est contraint dans ces fictions-là. On vient d'en parler un bout, puis c'est très intéressant à quel point on fait ce genre de choses-là. Là, je vois Steve qui fronce les sourcils un peu parce que je pense qu'il ne les a pas lus. Je pense qu'il va les lire par ailleurs.
Oui, tout à fait, exact.
Et regardez ces choses-là parce que comment l'humanité se dirige, c'est assez fascinant. Comment l'intelligence artificielle va modeler ce où on s'en va, c'est très fascinant. Ça, c'est des cas où on s'en va dans ce genre de choses-là. Très intéressant. Moi, je termine le sujet là-dessus. Toi, Steve, as-tu des choses à rajouter?
Tu sais bien, Nick, que j'en aurais eu encore pour une bonne partie de la soirée, mais on va s'en garder aussi pour les prochaines fois. C'est pas un problème.
La réalité, c'est qu'on n'enregistre pas assez souvent ensemble parce que tellement de sujets à chaque fois. Il va falloir se trouver une façon de faire parce que on a tellement de sujets le fun, puis on a tellement de choses. Et by the way, parce que vous n'avez pas l'accès à l'ensemble de l'information, on a tellement d'informations, on discute tellement de choses en pre-show, en after-show. Je pense qu'on est vraiment dû pour des épisodes autres. On va y réfléchir parce qu'il y a vraiment du contenu intéressant que je pense qu'on aurait intérêt à partager.
Tout à fait.
Sur ce, moi, bonne semaine.
Portez-vous bien et joyeux Spark, on peut le dire encore, joyeux Spark qu'on est là-dedans. Et certainement qu'on va en jaser.
On va être en santatoire. Joyeux Spark.